Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi, César Yao.
Bonjour à tous, tout de suite le sommaire de ce jeudi midi. 96 ex-migrants ivoiriens qui ont été volontairement rapatriés récemment en Côte d'Ivoire ont reçu hier mercredi à Abidjan des chèques d'un montant global de 98 770 000 francs CFA au cours d'une cérémonie présidée par le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Mamadou Touré a profité de cette cérémonie pour encourager ces jeunes à ne pas s'engager dans la voie de l'immigration irrégulière, car une autre alternative est possible. Ce jeudi 21 mars 2024 a lieu la Journée internationale des forêts, célébrée autour du thème « Les forêts et l'innovation, investir dans de nouvelles solutions ». Cette thématique nous invite à investir dans de nouvelles solutions pour une gestion forestière durable, notamment la recherche et le développement de technologies innovantes, la promotion des pratiques forestières durables et la mise en place de mécanismes de financement innovants. Et puis dans l'actualité internationale, à l'occasion du second forum de réflexion sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement qui s'est tenu récemment à Accra au Ghana, la présidente du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, Emilia Mkuza, a exhorté les dirigeants africains à se pencher sur la résolution des problèmes liés à ce phénomène en vue d'une meilleure gouvernance sur le continent. Dans la dernière articulation de ce journal, Jean-Claude Comerot viendra sur la notation financière des pays attribués par l'agence Moody's, qui a rehaussé depuis le 1er mars 2024 celle de la Côte d'Ivoire, et ce sera avec Faustin Ouzon, économiste et expert en intelligence économique, dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. Quelques 96 ex-migrants ivoiriens qui ont été volontairement rapatriés récemment en Côte d'Ivoire ont reçu hier mercredi, ici même à Abidjan, des chèques d'un montant global de 98 770 000 francs CFA au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique. Mamadou Touré a profiter de cette cérémonie pour encourager ces jeunes-là à ne pas s'engager dans la voie de l'immigration irrégulière, car une autre alternative est possible. Nous l'écoutons.
C'est vrai que cette cérémonie voit des remises de chèques, mais juste dit qu'on n'a pas besoin forcément de tactique pour recevoir donc des chèques, puisque le dispositif mis en place par le gouvernement vise à accompagner tous ces jeunes qui viennent en courant, qui ont besoin d'un accompagnement dans leur parcours d'insertion professionnelle. C'est un dispositif qui existe, et donc qui est profitable à tous les jeunes. Donc n'attendez pas de partir, de vivre des drames avant de venir bénéficier de ce dispositif. Vous pouvez tout de suite aller vers les guichets emploi, les agences régionales de l'ensemble des jeunes et bénéficier donc de ce dispositif. Vous avez vécu des choses, vous avez des conditions difficiles. Il est important pour vous d'être les ambassadeurs du gouvernement, vous expliquer bien à vos amis que les durables ne partent forcément ailleurs. Et nous sommes prêts à vous accompagner donc dans cette campagne donc de sensibilisation. Ensuite, pour terminer, vous demandez de bien utiliser les ressources qui sont mises à votre disposition. Ce n'est qu'une première étape. Vous recevez des ressources pour soit initier des activités ou renforcer des activités. Mais après la bonne utilisation de ces ressources, vous avez toujours la possibilité de redemander encore donc des ressources complémentaires pour faire vos activités. Il faut juste justifier la bonne utilisation des premières ressources que vous utilisez donc à votre disposition.
Voilà, à l'instant, Mamadou Touré, ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Déguerpissement et relogement parmi les mesures d'accompagnement annoncées lors du dernier conseil des ministres pour les habitants de quartiers précaires récemment délogés lors du déguerpissement mené par le district autonome d'Abidjan figure le point 5 qui cible directement un appui aux jeunes non impactés. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique a ainsi rencontré les représentants des déguerpiers des mairies de Yopougon, Até, Koubé, Adjamé, le district d'Abidjan, mais également les ministères sectoriels concernés. On en parle avec Mata Touré.
Il s'agissait de jeter les bases de la réflexion sur les mesures pouvant être apportées pour accompagner ces jeunes impactés par les déguerpissements vers une réinsertion économique. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique. Et
nous avons décidé de mettre en place un groupe de travail qui, dans les 10 prochains jours, donc, devra nous proposer donc, des mesures concrètes d'accompagnement donc, de ces personnes. Bien évidemment, ils devront être identifiés, faire en sorte que ne soient pris en compte que les vrais bénéficiaires et que ce ne soit pas un appel d'air donc, qui appelle donc, tout le monde.
De leur côté, les mairies avaient déjà commencé ce travail avec une principale difficulté. Ligoué Émile et de la mairie d'Até Koubé.
La difficulté, c'est que si nous ne sommes pas vigilants, nous allons léser ceux qui sont concernés directement. Certains jeunes voulaient en profiter pour se faire enrôler. Et nous avons dit non. Nous avons mis un dispositif pour vraiment filtrer, C'est pourquoi nous travaillons en collaboration avec les collectifs des différents quartiers. Nous-mêmes, les élus, sommes là avec les jeunes, les organisations des jeunesse de ces différents quartiers, même les organisations des femmes, parce que c'est eux qui se connaissent dans le quartier.
Le ministère de la Jeunesse qui rappelle qu'il existe un dispositif national de réinsertion qui concerne non seulement ces communes déguerpies, mais également l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire.
Autre chose dans ce journal, la traversée du quatrième pont d'Abidjan présente des dangers pour les piétons qui s'y aventurent pour cause de l'absence de passage de pont piéton. Pour saisir l'ampleur des risques auxquels s'exposent les riverains usagers de ce ouvrage routier, mais Emmanuel s'est rendu sur place. Voici son reportage.
En arrivant sur les lieux, le spectacle auquel nous assistons est effrayant.
C'est dangereux même.
Des voitures lancées à vive allure esquivent de peu les piétons qui, eux aussi, s'aventurent sur la voie en courant, passant d'un côté du pont à l'autre. Les raisons qui amènent les riverains à prendre cette route sont diverses. Conan Ariel, élève en classe de première A dans une école de la place, nous explique les siennes.
Quand on passe ici, ça nous permet de mieux arriver à l'heure. Cette voie est rapide. On préfère emprunter cette voie.
Comme Ariel, ils sont nombreux à s'exposer à cette traversée dangereuse des voies du 4e pont d'Abidjan, surtout aux heures de grande affluence.
Généralement, les matins, aux environs de 7h, c'est pas facile.
Pour traverser même à ces problèmes, la nuit même, les voitures viennent en flèche.
Vous êtes obligé de passer, c'est qu'il n'y a pas d'autre voie.
Non, on est obligé de passer.
Répond Jonas, un riverain qui profite de notre micro pour pousser son cri de cœur.
C'est trop dangereux pour nous. Nous, on peut dire qu'on est grand et les enfants. Il y a les enfants qui traversent, avant de traverser, ils montent là, ils courent en même temps. Vous voyez, la voie est dangereuse pour eux. Si ils peuvent faire un piéton pour nous, ça va nous arranger.
Entendez par là des passages ou des ponts pour les piétons. Malgré tous ces dangers, les riverains nous ont assuré qu'aucun drame n'est survenu à ce jour. À titre de rappel, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a invité les usagers du 4e pont d'Abidjan à la prudence, car les travaux de l'ouvrage ne sont pas encore terminés.
Ce jeudi 21 mars 2024 a lieu la Journée internationale des forêts, un événement à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies afin de célébrer le milieu forestier, sensibiliser à la gestion durable des forêts et comprendre leur rôle dans la transition écologique et énergétique. Pour cette édition 2024, un accent particulier est mis sur les approches novatrices visant à garantir la pérennité des forêts, assurant ainsi un avenir meilleur pour tous. Cette année, la journée est célébrée autour du thème « Les forêts et l'innovation, investir dans de nouvelles solutions ». Direction l'intérieur du pays, les autorités politiques et administratives de Daloa ont procédé récemment à l'inauguration d'une nouvelle institution financière, une occasion pour les autorités municipales de mettre en avant le potentiel économique de la ville. Pour le sous-préfet central de Daloa, il s'agit s'agit d'une nouvelle opportunité pour les opérateurs économiques de la région d'accéder au crédit et développer leurs activités. Une opportunité également pour les responsables de cette nouvelle banque de promouvoir la notion d'inclusion financière. Duo Sassandra est présenté aux opérateurs et petits commerçants les facilités d'accès au crédit. On en parle avec Jean-Noël Kwame.
Au cours de cette cérémonie, l'agent maire de Daloa Nzasida a mis en avant le potentiel économique de la région.
De voir les institutions financières s'augmenter nous montre que Daloa a un potentiel qui permettra à l'économie d'être boostée. Nous avons bénéficié des 20 km de goudron. Ça va permettre l'accès facile de ces institutions financières par les usagers. Daloa est beaucoup sollicité. Nous avons plein de demandes sur notre table. Nous les étudions et nous voyons qu'est-ce qui peut arranger la population.
Quant au sous-préfet central de Daloa, Masouba Meïté, il a encouragé les commerçants et autres opérateurs économiques à explorer cette nouvelle opportunité de financement de leurs activités.
Ça permet de donner une large possibilité aux opérateurs économiques de pouvoir faire des affaires dans les banques de leur choix.
Le promoteur Christian Fauguin, quant à lui, entend faciliter l'accès au crédit aux petites et moyennes entreprises de Daloa.
C'est une ville en pleine expansion. Pour les transporteurs, nous avons des produits de leasing, nous avons des produits digitaux qui permettent aux gens de plus se déplacer. Pour les particuliers qui n'ont pas de contrat à durée indéterminée, nous pouvons financer des individuels qui ont des contrats à durée déterminée. Sur une période, les commerçants qui n'ont pas suffisamment de garanties, nous pouvons financer avec un système qui leur permet de constituer progressivement leurs garanties. Notre leitmotiv, c'est de permettre d'accéder au crédit. C'est des PME qui constituent la force d'une économie. Nous sommes spécialisés dans le financement des petites et moyennes entreprises.
Commerçants, transporteurs et autres opérateurs économiques ont été sensibilisés sur l'accès au crédit et l'inclusion financière pour le développement de leurs différentes activités. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
En vue de se rendre compte du respect des prix et de la disponibilité des produits en cette période de carême chrétien et de jeûne musulman, le directeur régional du commerce, de l'industrie et des PME, en collaboration avec l'OCPV, a visité certains marchés de Boaké. Le récit de Joseph Assalé, notre correspondant régional dans le Boaké.
Au terme de la ronde dans les dépôts de marchandises, dans les espaces commerciaux et sur les marchés de Boaké, le directeur régional du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME dresse le constat suivant. Mamadou Fatiga.
Les marchés sont approvisionnés, suffisamment approvisionnés, mais nous faisons aussi également le constat avec vous qu'en plus, il n'y a pas de pénurie et il n'y a pas également de tendance inflationniste.
Bien plus, il les révèle.
Nous avons fait le constat qu'il y a certains produits qui sont vendus à des prix en dessous de ce que le gouvernement a indiqué. Cela va donc à l'avantage des consommateurs, le jeu de la concurrence. Donc, c'est la dialectique de l'offre et de la demande. En ce moment, les prix pèsent de façon inductive. Ça va de soi.
Le directeur régional de l'OCPV, Office ivoirien pour la commercialisation des produits vivriers de Boaké, se réjouit pour sa part de voir les étals achalandés. Norbert Nguessan.
Tout à l'heure, nous avons fait le marché de Bramakouté. On a constaté que les marchés sont approvisionnés en produits vivriers et aussi les prix sont abordables.
En revanche, un autre son de cloche que l'on entend en provenance des commerçants de vivriers rassure peu.
Tout a augmenté. Le sac d'oignons à 45 000. Quand on détaille, l'argent ne sort pas.
Moi, là, on appelle ça 100 bons. Les petits sont à 2500. Les grands sont, c'est 7500, mais derniers, plus 7000. Deux fois, là, les petits sont, on fait ça 1000 francs, deux fois 1500, deux fois 2000 même. Ça augmente, ça descend.
Au demeurant, il faut noter que dans l'ensemble, les prix des marchandises sont stables. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Dans l'actualité internationale présidentielle 2024 au Sénégal, les candidats sont sur le terrain depuis le début de la campagne. Tout de suite, les échos de ce qui se passe au pays de la Teranga avec Abdourahmane Diallo, notre confrère de la Radio Sud FM au Sénégal.
Alors que la présidentielle du 24 mars au Sénégal se profile à l'horizon, le pays est plongé dans l'effervescence de la campagne électorale. Les deux principaux candidats, Amadou Ba et Bassirou Diomaye Faye, sont au centre des attentions, incarnant respectivement les intérêts du pouvoir en place et de l'opposition. Amadou Ba, candidat soutenu par le parti au pouvoir, et Bassirou Diomaye Faye, porté par Ousmane Sonko, figure majeure de l'opposition sénégalaise, se livre une bataille sans merci sur le terrain politique. Tous deux, issus des impôts et des domaines, leur camp se livre une rivalité qui s'est intensifiée au fil des années, culminant aujourd'hui dans une confrontation électorale décisive pour l'avenir politique du pays. Cette campagne électorale, marquée par des joutes verbales passionnées et des promesses électorales ambitieuses, touche à sa fin alors que la date fatidique approche. Vendredi marquera la clôture officielle des activités de campagne, laissant place à la réflexion des électeurs sénégalais quant à leur choix crucial lors du scrutin. Abdourahmane Diallo, Dakar, pour la Radio de la Paix.
Et puis signalons que la présidente du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, Emilia Nkuza, a exhorté les dirigeants africains à se pencher sur la résolution des problèmes liés au changement anticonstitutionnel de gouvernement en vue d'une meilleure gouvernance sur le continent. C'était à l'occasion du second forum de réflexion sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement qui s'est tenu à au Ghana du 18 au 19 mars dernier. Nous l'écoutons.
In March 2022, when we met for the first Accra Forum, we had four.
En mars 2022, lors du premier forum d'Accra, quatre États membres étaient suspendus de toute activité de l'Union africaine en raison de changements anticonstitutionnels de gouvernement. Et au moment où nous sommes rassemblés ici, deux États supplémentaires ont été suspendus, ce qui nous fait un total de six membres. Cela signifie que depuis notre dernier rassemblement, il y a eu une recrudescence des coups d'État. Vous conviendrez avec moi que nous sommes toujours confrontés à de sérieux défis concernant les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Ainsi, nous devons tous redoubler d'efforts dans la résolution de ces problèmes. Si nous ne sommes pas en mesure de prendre en compte les préoccupations de nos concitoyens ou si nous continuons à manipuler nos constitutions, alors nous contribuerons à créer les conditions pour des soulèvements populaires et des renversements militaires sur notre continent. Pendant ce second forum, il nous faudra être aussi francs que possible pour permettre à l'Union africaine d'obtenir des informations crédibles sans oublier la mise en œuvre du statut de la déclaration d'Accra dans la résolution de ce problème.
First-hand information, including the implementation status of the first Accra declaration.
Voilà, c'était Emilia Nkuza, présidente du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, dans des propos traduits de l'anglais en français par Christelle Yesso. À présent, l'invité de la rédaction, Jean-Claude Coméry, soit l'économiste et expert en intelligence économique, Faustin Ozon. Ils reviennent tous deux sur la notation financière des pays depuis le 1er mars 2024, dans laquelle l'agence Moody's a rehaussé la note de la Côte d'Ivoire de BA3, perspective positive à BA2, avec perspective stable. Avec cette note, le pays se positionne comme le deuxième meilleur crédit de l'Afrique subsaharienne, derrière le Botswana et aux côtés de l'Afrique du Sud. Quelles sont les implications économiques d'une telle note pour la Côte d'Ivoire? La réponse dans cet entretien.
Monsieur Faustin Onozon, bonjour.
Bonjour, monsieur Koumé.
Dans une note du ministère des Finances et du Budget, il est question de la notation de la Côte d'Ivoire par l'agence Moody's qui rehausse la note de la Côte d'Ivoire de BA3 à BA2. D'abord, l'agence de notation, c'est quoi son rôle?
Merci bien. Une agence de notation qu'on appelle encore rating met en exergue tout ce qui est indicateur et qui permettent aux investisseurs d'évaluer la santé financière d'un État, d'une entreprise, ou alors la forme financière la plus crédible d'un titre financier, par exemple, ou alors d'un emprunt. Voilà un peu ce que c'est qu'une notation financière. Et ces entreprises-là, habituellement, se basent sur l'évaluation des risques de non-remboursement.
Alors, cette agence Moody's, à côté d'elle, il y a aussi des agences comme Standard & Poor's, qui a noté aussi la Côte d'Ivoire récemment avec la note BB-, perspective stable, et Fitch aussi, BB-, perspective stable. Alors, pourquoi cet intérêt pour la Côte d'Ivoire de se faire noter par les agences de notation?
Vous savez que ces dernières années, notre pays est sur le marché financier et lorsqu'on est sur le marché financier, c'est bien évidemment pour pouvoir s'endetter et réaliser nos objectifs publics en matière de développement. Et donc, ces structures-là sont bel et bien informées, ce sont elles qui généralement nous donnent une note. Et c'est à partir de cette note-là que notre pays peut s'avérer crédible ou pas. C'est à partir de cette note-là que notre pays peut s'avérer être trop exposé, parce que quand on est trop exposé aussi, c'est qu'on a trop de dettes et il est difficile dans pareille occasion de s'en remettre. et de poursuivre son développement. Mmh. Il est donc important et cohérent d'aller vers une notation financière qui émane d'une entreprise de notation, bien sûr, reconnue par le monde entier.
Alors, parlons précisément de cette notation de l'agence Moody's, de BA3 à BA2. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement?
BA3, BA2, c'est un peu comme si on se situait dans le volet BB. BB ou BA2, c'est pratiquement la même chose. Tout dépend des agences de notation. Alors, de BA3, quand on part à BA2, c'est qu'il y a une amélioration. Cela signifie, par exemple, que les obligations ne sont pas aussi vulnérables que ça à court terme, mais peuvent quand même faire l'objet d'une incertitude, un peu dans le long terme, quoi, en termes de vulnérabilité. Surtout quand certaines conditions économiques et financières et même commerciales ne sont pas réunies. Voilà un peu ce que signifie BA2. C'est surtout en termes des perspectives. Hein. Les perspectives sont stables. La santé financière, elle peut s'avérer aussi cohérente. Mais il y a une chose qu'il faut peut-être vous rappeler, c'est que une santé financière est véritablement exceptionnelle quand on est dans le type A, par exemple. Et le type A, il y a 11 pays, je crois, dans le monde qui sont notés type A, dont 8 sur le continent européen, par exemple. Des pays comme l'Allemagne, le Danemark, le Luxembourg et autres. Et puis ensuite, il y a les autres notations telles que AA ou... On nous dit que le risque d'insolvabilité est très faible, tandis que pour le type A, le risque d'insolvabilité est faible. Alors, lorsqu'on va dans B, par exemple, vous allez voir aussi que là-bas aussi, le risque d'insolvabilité est faible, mais peut être affecté. Et si on y prend garde, c'est ce que ça signifie.
Alors, quand on parle en termes économiques de risque d'insolvabilité, que comprendre par ce terme-là?
Bon, le risque d'insolvabilité, il relève tout simplement de tout ce qui est perspective de remboursement de ses engagements envers ses créanciers. Et si vous n'avez pas la possibilité de rembourser vos engagements, c'est qu'il y a un risque. C'est qu'il y a un risque d'insolvabilité. Il peut être fort, il peut être faible. Et c'est un peu ce que cela signifie. Donc, dans le cas, par exemple, des marchés financiers où on parle d'obligations du trésor, si le pays est trop exposé, les perspectives peuvent ne pas être stables. Et là, on a un risque d'insolvabilité qui est assez important quand même. Vous voyez, non? On ne dirait pas qu'il est faible. Et voilà un peu ce qu'on entend par risque d'insolvabilité. Mais il y a une chose qu'il faut aussi comprendre, c'est que tantôt on parle des risques d'insolvabilité quand il s'agit d'un pays, mais on peut aussi parler des risques d'insolvabilité quand il s'agit, par exemple, d'une entreprise. Et parce que les entreprises aussi bénéficient d'une notation financière parce qu'elles s'endettent sur le marché international. Alors, en termes de notation financière, le risque d'insolvabilité mettra l'accent sur le système d'études sur l'audit comptable et financier. Alors que le risque client, lui, mettra l'accent sur le système qu'on appelle un système expert.
Alors, pour le cas de cette notation de l'agence Moody's, notation de la Côte d'Ivoire, il est souligné donc une perspective stable. Que comprendre par ce terme?
Alors, ce sont des notations qui font l'objet d'une étude tout à fait particulière et effective. Et suite à cette étude-là, on vous dit exactement dans quel cas vous êtes. Alors, vous pouvez avoir cette note-là et puis ne pas avoir des perspectives stables. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, là, on bénéficie, on suit d'un taux de croissance macroéconomique qui est aussi autour de 7%, sinon un peu plus. Et les retours sur l'investissement s'annoncent tout à fait bons aussi. Et les perspectives sur le plan social, politique, économique et financier s'annoncent aussi bonnes. Donc, on ne peut que parler des perspectives stables dans ce cas bien précis.
Monsieur Faustin Onozon, je vous remercie.
Merci, monsieur Côté.
Voilà, à l'instant, Jean-Claude Docomé recevait l'économiste et expert en intelligence économique Faustin Onozon dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voilà qui referme les pages de ce journal. Le rappel des deux des principaux titres. 96 ex-migrants ivoiriens qui ont été volontairement rapatriés récemment en Côte d'Ivoire ont reçu hier mercredi à Abidjan des chèques d'un montant global de 98 770 000 francs CFA au cours d'une cérémonie présidée par le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Mamadou Touré a profité de cette cérémonie pour encourager ces jeunes à ne pas s'engager dans la voie de l'immigration irrégulière, car une autre alternative est possible. Enfin, ce jeudi 21 mars 2024 a lieu la Journée internationale des forêts, célébrée autour du thème « Les forêts, l'innovation, investir dans de nouvelles solutions ». Cette thématique nous invite à investir dans de nouvelles solutions pour une gestion forestière durable, notamment la recherche et le développement de technologies innovantes, la promotion des pratiques forestières durables et la mise en place de mécanismes de financement innovants. Voilà, c'est la fin de ce jeudi midi sur Radio de la Paix. Prochain rendez-vous 15h avec un flash d'information. Tout de suite, la revue de presse avec Ghislain Koulibaly.
Bonjour à toutes et à tous. Les violences à l'endroit des enseignants et enseignantes sont récurrentes ces derniers temps.